J'avais prévu, au début de ce culte, de lire un texte d'un psaume, et puis il m'a semblé plus juste de continuer d'être dans une position de louange et d'adoration. Donc je ne l'ai pas lu, et en y repensant, je me suis dit que finalement c'était une bonne introduction la parole que je souhaitais partager ce matin. Et ce texte d'introduction, finalement, ce sera le psaume 114, un psaume de louange, mais aussi de proclamation de la part du psalmiste. On ne sait pas de qui il s'agit, il n'est pas noté, mais le psaume 114 se termine par ces deux versets. « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le granit en source d'eau. » C'est un texte qui m'a frappé quand j'ai préparé ce culte et que je cherchais une introduction. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce verset parle de quelque chose d'essentiel. C'est la capacité de notre Dieu à apporter du changement dans ce qui semble inaltérable et immuable. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le granit en source d'eau. Nous sommes en Bretagne, et la Bretagne est le pays du granit. Dans les obligations que j'ai au sein de mon établissement, il y en a une que j'ai découverte il y a quelques années, c'est de garantir la sécurité de l'établissement, notamment sur le radon. Je ne savais pas ce que c'était que le radon, je ne savais pas que j'en avais sous mes pieds, je ne savais pas que mon bureau était placé à un endroit où il y avait du radon qui pouvait remonter. Et en fait, c'est un gaz qui a des effets négatifs sur la santé et qui est particulièrement présent dans les sous-sols granitiques. Et donc, j'étais obligé, au fil de ces années, de faire des examens, de poser des capteurs dans tous les coins du rez-de-chaussée pour vérifier où il y avait des endroits susceptibles de dégager du radon et donc de mettre la santé des salariés et des malades en danger si je n'intervenais pas. Alors, j'ai mis des capteurs partout. Il y en a même un qu'on a oublié à un moment donné, on ne savait plus où il était, mais on a mis partout, la cuisine, les salles d'activité, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait trois pièces dans tout le rez-de-chaussée, qui est très, très vaste. Hein, c'est plusieurs centaines de mètres carrés. Hein, il y avait trois salles. La salle d'activité principale, où on se retrouve tous les jours. On commence la journée là-dedans, qui donne sur le rez-de-jardin. Il y avait l'atelier de l'agent d'entretien et puis il y avait l'atelier photo. Et l'endroit, donc la technique pour évacuer le radon, c'est tout simplement de créer des circulations d'air, donc des aspirations naturelles ou mécaniques pour enlever le radon et faire que ce gaz puisse disparaître. Et évidemment, l'endroit où j'avais le plus de radon, c'était dans l'atelier photo. Vous voyez ce que c'est qu'un atelier photo pour développer ? C'est un endroit où on colmate tout. C'est-à-dire les interstices, les portes, les fenêtres, etc. Et c'est là que j'avais le plus de radon. Donc on a supprimé l'atelier photo. Le sous-sol granitique, c'est quelque chose d'immuable qui semble... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on creuse, quand on veut construire une maison et qu'il y a un sous-sol granitique, on ne peut pas faire grand-chose. Et pourtant, ce psaume dit, et commence par « Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. » Quelque chose qui semblait immuable et qui ne devait pas changer. Israël était en situation d'esclavage depuis des années et des années et des années et des générations. Il y a des choses qui semblent ne pas devoir bouger, changer. Et pourtant, ce psaume dit « Tremble devant le Seigneur, ô terre », c'est-à-dire toute la terre qui ne m'appartient pas, tremble, car le Dieu de Jacob change le rocher en étang et le granit en source d'eau. Vous avez essayé de changer un rocher en étang ou du granit en source d'eau. C'est une image, je trouve, qui est magnifique, parce que c'est de l'ordre de l'impossible humainement. Et il y a peut-être dans nos vies aujourd'hui, et sans doute l'avons-nous vécu, des choses qui sont l'ordre de cette immuabilité. Ce sentiment que cela ne pourra pas changer. Nous l'avons vécu, dans certains domaines de nos existences. Et nous le vivrons encore. Le Saint-Esprit nous confronte à des choses. Dieu nous fait passer par des chemins où on se dit il y a peu de chances, peu de possibilités que les choses puissent changer. Eh bien, notre Dieu est celui qui peut faire qu'un rocher devienne un étang et que le granit lui-même devienne une source d'eau. Et cette expérience-là, il y a deux hommes qui l'ont vécu et qui ont vécu ce qui semblait impossible, ce qui semblait irréalisable, et pourtant, ils l'ont expérimenté. Et j'aimerais m'arrêter sur ce parcours de ces deux hommes. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Il n'y a rien de plus immuable que la mort. Rien de plus définitif. La vie est une maladie mortelle, disait quelqu'un. Ben oui, on naît, on meurt, et c'est le lot commun. Et la mort semble pour le monde sans espérance quelque chose d'immuable. Et les disciples, lorsque Christ a été crucifié, n'ont pas été épargnés par cette pensée. Et l'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, après l'épisode raconté par des femmes, parce que les femmes sont restées là quand même. On ne sait pas où étaient les disciples au matin de Pâques, mais les femmes étaient là. Elles sont restées. Et il y a eu la résurrection. Elles ont été envoyées vers les disciples pour leur dire, écoutez, voilà ce que nous a dit un ange, le Seigneur lui-même. Puis il y a deux disciples. Deux disciples dont il est dit au chapitre 24, verset 13, que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, ça fait à peu près 11 kilomètres. Ici, à Presquenbon, Codan. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Ah. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon !» Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. longue lecture, mais qu'on ne peut pas tronquer ou difficilement pour en saisir toute la richesse. Voilà du granit qui s'échange en eau. Quelque chose qui semble être de l'ordre de l'immuable, du non-changement, et c'est bien là le miracle de Christ, c'est qu'il est capable d'accomplir un changement qui nous semble irréalisable. Et parfois, quand on manque de foi et qu'on se dit « mais ça, ça ne pourra pas bouger », combien de fois on dit, face à certaines situations, « oui, ça, c'est cuit, ça restera toujours comme cela, dans la vie de telle personne, dans son parcours, des proches que nous aimons tellement. » Et nous sommes convaincus que les choses ne changeront pas. Ça ne nous est pas arrivé, cela ? Du granit en source d'eau. Les deux disciples d'Emmaüs sont de la même nature que nous. Ils ont marché pendant plusieurs années. Certains pensent que un de ses disciples, c'était, il est cité, c'est Cléopas, et l'autre, ce serait Nathanaël, ou quelqu'un de proche de Christ, comme cela. En tout cas, ce sont des hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont eu une expérience. Mais une expérience qui ne les a pas fait passer au stade où Pierre a pu le proclamer, il est le Fils de Dieu. Quand il parle avec celui qui marche à leur côté, ils disent, mais ce qui s'est produit à propos de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Leur témoignage, leurs paroles disent où ils mettent, où ils situent Jésus. C'était un prophète puissant. Alors, des prophètes Israël, depuis l'époque de Malachie, ben, n'en connaissaient plus beaucoup. Les derniers prophètes remontaient à quelques centaines d'années. Ça me fait penser à une dernière rencontre que j'ai eue où des membres d'une autre église historique disaient, quand on parlait de Martin Luther King, je vous en faisais part il y a quelque temps, dit, est-ce que Martin Luther King était un prophète? Et quelqu'un a répondu, mais non, bien sûr que non. Les prophètes n'existent plus depuis l'Ancien Testament. Et l'esprit de prophétie non plus. Et je pense que dans Israël, la venue de Jésus était quelque chose comme une oasis au milieu d'un désert temporel où les prophètes, puissants en parole et en action, des Élie, des Élisée, eh bien, avaient disparu d'au milieu du peuple. Et là, Jésus est arrivé. Il a accompli des miracles, il avait de l'autorité, il avait une parole agissante, une parole qui provoquait le changement. Mais ils sont restés à cette pensée, c'était un prophète. Et le fait qu'ils le considèrent comme un prophète, c'est cela qui faisait qu'ils avaient quitté Jérusalem et qu'ils partaient sur la route d'Emmaüs. Alors, dans les notes que j'avais prises, récemment pour ce texte, ils allaient à Emmaüs, à 11 kilomètres. Il y a différents textes anciens qui reprennent, qui traduisent en grec, en latin, etc. Il y a le codex de Bèze qui est un codex qui, au lieu d'Emmaüs, utilise le mot Oulamaus, qui est très proche. Et ce qui fait qu'on a une autre indication, c'est un codex ancien qui est très fiable, qui donne un autre éclairage souvent. Et le mot Emmaüs est remplacé par Oulamaüs. Et Oulamaüs, c'est le nom ancien, en fait, d'une autre ville qui est la ville de Bethel. Alors on dit, tiens, Bethel, ou alors est-ce que c'est Emmaüs, Nicopolis, qui est. L'une est à 11 km, l'autre à 18 km. Moi, j'aime bien la pensée que ce texte ancien nous oriente vers Bethel. Il quittait Jérusalem pour aller vers l'ancien lieu qui faisait autorité au milieu d'Israël, c'est Bethel. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Bethel? C'est là où Jacob s'est couché une nuit et il a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre et des anges qui montaient et qui descendaient. Il dit, ceci est la maison de Dieu. Bethel était, avant Jérusalem, le lieu de culte d'Israël, le lieu reconnu, ce lieu ancien. Et je me dis, j'aime cette pensée que ce puisse être vers Bethel, vers Oulamaous, que se dirigeaient ces deux disciples, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une révélation de Christ, et quelque part, ils retournaient aux choses anciennes. Ils n'avaient pas eu la révélation de qui est Christ. Alors, ils quittaient Jérusalem, ils quittaient ce qui s'était passé, parce que Christ avait dit « Restez à Jérusalem afin que vous receviez l'Esprit Saint. » Mais eux étaient enfermés dans leur peur, leur crainte. Ils ne voyaient pas qui était Christ et qui pouvait être encore Christ dans leur vie. Il est mort. Est-ce que tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit? Nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et c'est là la fragilité de ces deux hommes, c'est qu'ils s'arrêtent à la crucifixion, même s'ils disent « il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles sont venues nous dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il était vivant. » C'est bien ça, les hommes. Est-ce qu'on peut croire une femme? Et plusieurs femmes, en plus. Hein? Ouais. On s'enferme dans des croyances qui limitent l'action de Dieu dans nos vies. On s'enferme dans des croyances aussi qui limitent Christ ressuscité dans nos vies et dans l'Église. Or, il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Et s'il est ressuscité, alors il peut transformer le granit en eau. Il peut transformer et supplanter la mort et proclamer que la vie de Dieu est plus forte que la mort. Alléluia. Ces deux hommes marchaient et étaient enfermés dans des croyances qui limitaient l'action de Jésus. Ah, ils retournaient vers Bethel, vers la maison de Dieu d'hier, vers les choses anciennes. Et il est dit qu'ils étaient attristés. Attristés. Hein. L'air attristé. Ils s'arrêtèrent et parlaient avec Jésus. Ce mot « attristé » apparaît dans un autre texte de l'Évangile de Luc, c'est l'upouménoï. Vous savez qui était attristé, qui était dans la même position d'attristement? C'était Marie et Joseph. Quand montant à Jérusalem, ils sont repartis, et puis dans la caravane, dans le brouhaha, ils ont perdu Jésus. Ils ont perdu leur enfant. Ça m'est arrivé, je souris, mais je dis souvent, ça m'est arrivé avec Maïlis. On est allé au troc épus de Gestel. Très, très grand troc épus, hein, pour essayer de me justifier. Très, très grand troc épus. Et puis, à un moment donné, Francine tenait la main de Maïlis qui devait avoir 4 ans, guère plus, 4, 5 ans à peine. Et elle se retourne à un moment donné, plus de Maïlis. On a passé 3 quarts d'heure à chercher notre fille dans tout le troc épus. Et au bout de 3 quarts d'heure, on a entendu une voix dans les haut-parleurs. Il y a une petite fille qui attend ses parents sur le manège qui se trouve à l'entrée du troc épus. J'étais pas fier. J'avais perdu ma fille. Et je l'ai retrouvée. Elle était assise. En fait, elle avait vu le manège à l'entrée. Et quand sa mère a lâché sa main, elle a filé au manège. Et là, depuis 3 quarts d'heure, elle tournait. Et le monsieur du manège ne faisait pas cas, il se dit « bon, elle est là !» Pendant 3 quarts d'heure, elle a tourné. C'est dur de perdre son enfant. Je pense que Marie et Joseph étaient inquiets Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent. Lui, il avait 12 ans, selon la coutume, à la fête. Puis quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils ont quand même passé une journée à marcher. Et après, ils ont cherché leur fils. Et puis, ils ont dû refaire une journée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, ça ne vous dit rien ? Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Ils étaient attristés. C'est les deux mots que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Marie et Joseph attristés d'avoir perdu leur enfant. Cléopas et son compagnon attristés d'avoir perdu Jésus. On est sur le même plan. Nous sommes tristes. Ce terme des 3 jours, le regard posé sur Jésus, au terme des 3 jours pour Marie et Joseph, il est dit que, quelque part, leur regard a été changé. Il a été changé sur leur fils quand ils ont vu comment il répondait et comment il était en relation avec les docteurs de la loi, dans quelle attitude il se trouvait. Ce que Dieu propose à Cléopas et à son compagnon, c'est de changer aussi leur regard sur Jésus. Et ce que Dieu veut, c'est aussi que nous changions notre regard sur Jésus tout au fil de nos marches. Et s'il y a des fois où nous avons la tentation, à cause du découragement, à cause des échecs, à cause d'un sentiment d'impasse dans nos vies, ce que Dieu veut en nous rencontrant, c'est que nous changions aussi notre regard sur Jésus dans notre relation et dans notre vie avec lui. Est-ce que nous voulons rester attristés ou bien une nouvelle révélation de Christ peut-elle nous inviter à vivre un changement dans nos existences. Dans ce texte des pèlerins d'Emmaüs, il y a quelque chose qui revient de manière récurrente, c'est au verset 16, 24 et 31, c'est l'histoire des yeux. « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Ça a toujours été un mystère pour moi, ce passage de l'Évangile. Comment on peut marcher si on est Cléopas ou si on est Nathanaël, supposons que ce soit Nathanaël, comme le pensent certains pères de l'Église, si on est Nathanaël, qu'on a quitté Jean-Baptiste pour rejoindre le Christ sur l'invitation d'un de ses disciples, est-ce que, après avoir marché tant de mois et tant d'années à ses côtés, on peut ne pas reconnaître Christ ? Moi, je pense que dans nos vies personnelles, nous avons vécu des expériences où nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas reconnu sa main dans nos vies. Nous n'avons pas entendu sa voix. Nous sommes souvent comme les pèlerins d'Emmaüs. Malgré 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans de vie avec le Seigneur, il m'arrive encore, moi, au bout de 40 d'années, de ne pas le reconnaître. Parce que mes yeux sont fixés sur autre chose. Parce que mon intelligence est enfermée dans une autre logique. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Étaient empêchés par qui, par quoi ? Oh, pas par ils n'avaient pas un bandeau, il n'y avait pas quelqu'un qui leur avait mis un bandeau pour aller de Jérusalem à Bethel. Mais déjà prendre la route de Jérusalem à Bethel, ou vers Emmaüs, c'était le signe que leurs yeux étaient déjà cloisonnés avec des bonnes œillères. C'était eux, en l'occurrence, qui avaient les yeux obscurcis. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Deutéronome 4:9. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies ce que tes yeux ont vu. Je suis sûr que si nous faisions là, maintenant, un temps de témoignage sur les choses que nos yeux ont vues, on serait à nouveau émerveillés ensemble de tout ce que nous avons vu de Dieu dans notre existence. les expériences que nous avons faites. Une fille qui rentre dans un magasin à Londres et qui tombe sur des membres de l'église de Kevin. Elle l'a vu. C'est une expérience. Est-ce que vous n'avez pas fait des expériences de cette nature? Je pense à Jean-Noël Hervé qui s'arrête en plein milieu de la Suisse pour choisir un hébergement en ferme. Et puis au cours du dîner, en discutant, tout à coup, les fermiers et sa femme disent « Vous êtes de l'Orient ?» Nous, on connaît très bien quelqu'un, un couple là-bas, Jean-Marc et Francine. Ah bon? C'est vrai qu'on est célèbre. Ce que nos yeux ont vu. On a vu des choses tellement merveilleuses et pourtant, régulièrement, nous reprenons des œillères qui nous empêchent de voir toute la puissance et l'autorité du Christ ressuscité dans nos vies. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Le livre du Deutéronome est un livre merveilleux parce que c'est un rappel de la loi à la nouvelle génération qui va rentrer dans la terre promise. Et quelque part, Dieu va répéter à plusieurs reprises ce que leurs yeux ont vu. Alors, il y a aussi ce défaut, c'est que quand il dit cela à une génération qui ne l'a pas vu véritablement. C'est vrai. C'est la nouvelle génération qui est née dans le désert. Donc quand il fait référence au passage de la mer Rouge, quand il fait référence à l'ange de la mort libérant Israël en touchant les premiers-nés d'Égypte, en fait, il fait référence à quelque chose que la nouvelle génération n'a pas vu. Mais le témoignage et la réalité du peuple qui est là, à l'entrée de la terre promise, est un témoignage, une proclamation de ce qui a été vu. Moi, j'ai envie de dire, mes yeux ont vu des choses merveilleuses parce que les premiers chrétiens de l'Église apostolique du Pays de Galles ont vu de Dieu et ont reçu comme révélation de ce qu'était l'Église de Christ. Et même si ce sont mes pères, en l'occurrence, mes yeux l'ont vu ou les yeux de ce mouvement l'ont vu. Mais dans ma vie personnelle, j'ai vu aussi des choses. Qu'est-ce que j'en fais? Nous pouvons avoir des problèmes de vue. Moi, je suis myope et astigmate. Certains peuvent avoir ces mêmes pathologies. Myope, ça veut dire que de près, ce n'est pas terrible. Astigmate, c'est que de loin, ça ne l'est pas non plus parce qu'il y a des courbes et des choses qui ne sont pas terribles. On peut avoir une foi où nous ne voyons pas les choses de loin. Hein. Nous ne voyons plus ce que Dieu a fait au début de ma marche avec lui, au début de la vie de l'Église à laquelle j'appartiens, au début de l'Église chrétienne. On peut être myope aussi en ne voyant pas ce que Dieu fait là, maintenant, dans mon temps présent, ou avoir une vision tronquée. Comment pouvons-nous toucher le monde qui nous entoure si nous ne sommes pas un peuple qui a une vision saine? Et j'ai envie de dire, si nous ne sommes pas un peuple, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes visionnaires, qui voit tout le possible de Dieu, du granit qui se change en eau. Ah ! Il y a une démarche qui est la démarche de la foi ou la démarche de la raison. Le cheminement de l'intelligence, ce que je comprends avec ma raison. Et moi, je dis que Cléopas et Nathanaël, finalement, si j'avais été à leur place, est-ce que je n'aurais pas réagi de la même manière? 3 ans que je me suis donné à suivre ce Jésus, ce prophète formidable. Et finalement, ce que j'attendais ne s'est pas réalisé. C'est ça leur propos. Et nous espérions, nous attendions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour. Moi, j'aime bien cette notion de troisième jour. C'est au bout de 3 jours que Marie et Joseph ont une autre révélation de leur enfant. Je ne sais pas ce qu'ils ont saisi, mais en tout cas, au bout de 3 jours, quand ils le revoient et qu'ils perçoivent qui il est à l'âge de 12 ans, tout à coup, ils le regardent différemment. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Ouais, 3 jours. Il nous faut parfois 3 jours, c'est-à-dire, c'est un peu le temps de la révélation. Ils nous font un temps de révélation, parfois pour ouvrir les yeux. Hein ? Alors, c'est parfois des jours qui paraissent longs. Pour le Seigneur, je veux dire. On pourrait les écourter. Mais il faut parfois du temps pour que les choses descendent de là. On dit souvent, moi c'est une formule que j'aime bien, que le plus long chemin qu'un homme ou une femme doivent parcourir, c'est environ 50 cm. C'est le plus long chemin à faire. De là, de ma raison à mon cœur. De ma raison à mon cœur. Il nous faut parfois tellement de temps pour sortir de notre intelligence, de notre raisonnement, et puis rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel, du spirituel. Le cheminement de ces deux hommes, c'est un cheminement où ils partagent le désespoir et l'incompréhension. Ah, avoir le chemin de la rationalité qui est basé sur ce que j'ai vu. On l'a vu, il s'est fait arrêter. On l'a vu, il a été trahi par les sacrificateurs. On l'a vu crucifié. Mais est-ce que tu l'as vu ressuscité par les yeux de la foi ? Hein ? Est-ce que tu l'as vu ? Ah non, je reste basé sur mon intelligence, sur mon raisonnement. Même si ce raisonnement, ce cheminement d'intelligence me conduit à une impasse, me conduit au désespoir, à la tristesse. Que dira Jésus à ces deux hommes ? Il disait, voilà ce que nous, on a constaté. Par notre intelligence, hein, on te fait un résumé complet. Et il est complet, le résumé. Ils disent ce qu'ils ont vu. Et que leur dit Jésus ? Hommes sans intelligence. Parce que le raisonnement qui va me permettre de conduire ma vie sans qu'il soit éclairé par la foi. On a entendu parler de la foi il y a quelque temps. Si l'intelligence n'est pas éclairée par la foi, elle conduit à une impasse. C'est Einstein toujours qui disait, en parlant de la science, il disait, la science c'est l'escalier ou l'échelle de Jacob qui conduit au trône de Dieu. La science, c'est l'échelle de Jacob qui conduit au trône de Dieu. Ça veut dire qu'une science qui ne conduirait pas à celui qui a tout créé, ce serait une science complètement hermétique. Alors, il y a des scientifiques qui disent, oui, mais attends, tout ça, c'est l'effet du hasard. Alors, je disais mercredi, c'est génial le hasard quand même. Les scientifiques ont découvert qu'au moment où la Terre s'est positionnée par rapport au Soleil, si elle s'était positionnée dans la distance 1% plus proche du Soleil, la vie était impossible parce que la Terre serait complètement calcinée. Et si elle était 1% de cette distance-là en deçà du Soleil, elle serait complètement glacée et la vie serait impossible. Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses quand même ? Et Einstein dit non, la science, c'est de prendre conscience qu'elle conduit comme l'échelle de Jacob au pied du trône de Dieu. Et une démarche intelligente, uniquement rationnelle, conduit à l'impasse. Ce qui s'est passé n'est pas compréhensible à partir de cette rationalité basée sur « j'ai vu » et donc « je sais ». Homme sans intelligence, ne fallait-il pas que ce qui était écrit et dit par les prophètes ne s'accomplisse. Si votre foi irrationnelle ne se repose pas sur la parole de Dieu et ce qu'elle dit de Dieu, alors vous êtes des hommes sans intelligence. Croyez, soyez le plus grand savant, le plus grand scientifique ou très loin des sciences, mais en tout cas, si c'est votre raison qui vous dit ce qui est, alors vous êtes sans intelligence. Ce que Dieu propose et ce que Christ propose aux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, c'est une démarche de foi. Ce qui fait question, c'est la mort de Jésus. Ce qui s'est passé rationnellement est incompréhensible. Mais le passage d'une compréhension rationnelle basée sur une observation visuelle à une autre compréhension rationnelle basée sur la parole, eh bien, nous fait passer d'un granit à de l'eau vivante. C'est la même transformation qui nous est proposée. La parole conduite à une démarche, là aussi l'écriture, ouvre nos yeux sur la réalité de Dieu, y compris dans nos vies aujourd'hui. Le disciple qui marche à côté de Jésus ne peut partager sa filiation et sa vie divine que lorsque le disciple renonce par la mort, et Christ renonce par la mort à sa toute-puissance, et le disciple rentre dans cette compréhension de ce mystère. Il est mort et il est ressuscité. Est-ce que je veux découvrir, comme ces deux pèlerins d'Emmaüs, Cléopas et moi, découvrir le Christ vivant? Lorsqu'il échappe aux yeux, je le reconnais vainement. C'est ça qui m'émerveille dans ce texte aussi. Ils reconnaissent Jésus, non pas quand ils le voient, mais quand il a disparu. C'est étonnant. C'est-à-dire que finalement, elle est bien là, la clé de ce texte. Ce n'est pas ce que mes yeux ont vu et qui m'amène à un raisonnement rationnel qui me permet de découvrir ce que Dieu veut et ce que Dieu est. C'est quand mon intelligence découvre dans l'Écriture ce que Dieu est, et même, et quand il n'est plus là, tout à coup, oui, je le vois. Est-ce que vous voyez Dieu ce matin? Est-ce que vous voyez Christ dans vos existences, dans mon existence? Parce que même s'il n'est pas là, il peut faire qu'à Londres, dans un petit magasin, vous poussiez la porte et vous tombiez sur des gens que vous connaissez. C'est cela. Par l'intelligence, c'est impossible. Déjà que parfois, quand on se donne rendez-vous, on arrive à se rater. Mais Dieu est capable. Alors, je relirai juste pour terminer ces deux versets du psaume que nous avons lu. Psaume 114. « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le granit en source d'eau. » Je nous souhaite de voir tous les granits de notre vie se transformer en source d'eau. Merci Seigneur pour des yeux qui s'ouvrent, pour nos yeux qui s'ouvrent, et pour cette foi qui, toi absent, non visible, est toujours présent dans nos vies et agissant. Ouvre les yeux de notre foi, Seigneur. Donne-nous, là aussi, de faire ce chemin vers toi, d'accepter que nos granites de certitude se transforment en eau vivante. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour accomplir ce miracle. Et ce n'est pas une parole pour une hypothétique transformation, une hypothétique changement. C'est la réalité de ta vie en nous, dans ton Église et dans ce monde, que tous les granits de cette terre se transforment en source d'eau. Parle-nous déjà pour que ton Église soit cette source vivante, où ta parole est toute sa place de révélation et de vie. Amen. Amen.